France Musique.
Il est 21h sur France Musique, c'est l'heure de retrouver Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier pour En Piste Contemporain.
Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Émilie.
Bienvenue dans votre En Piste Contemporain. Pour tout savoir de l'actualité discographique des musiques d'aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Avec un peu de musique mexicaine aujourd'hui avec Javier Alvarez ou Itzman Zapata, mais aussi la musique de Philippe Hersant.
Et on commence avec le premier violon de notre Orchestre National de France, Sarah Nemtanou. Son nom est au générique du dernier disque du chef Bastien Steele. C'est un opus qui nous fait entendre la première symphonie de Shostakovich ainsi que le concerto pour violon de Dmitri Tchesnokov. C'est un compositeur ukrainien de 37 ans qui a été formé à Paris. Il a notamment étudié l'orchestration avec Guillaume Connaisson. C'est un amoureux de la musique de Franz Liszt, c'est ce qu'on nous dit, mais aussi de celle de John Adams, de Schnittke ou de Salonen. Et le titre de ce disque, c'est « Modernisme » avec cette question « Qu'est-ce qu'être moderne ?» Alors là,
pas évident. Hein.
Pas évident. Alors, est-ce adopter une posture d'avant-garde, rompre avec le passé, ou est-ce revenir à la simplicité pour être accessible au plus grand nombre ? La question a été posée tout au long du XXe siècle. Le débat reste encore ouvert. Et Dmitri Tchesnokov, nous dit-on, refuse, lui, toute étiquette, surtout celle de néo ou de post. Sa volonté, je le cite, de suivre son instinct et écrire indépendamment de son époque, le pousse à adopter sans complexe pour cette œuvre particulière une structure, une harmonie et une orchestration résolument romantique. Vous l'avez compris, son concerto pour violon créé en 2016 n'adopte pas la posture d'avant-garde. C'est une musique très tonale qui évoque quelque part celle de Shostakovich.
Thank you.
Le final du concerto pour violon de Dmitri Tchesnokov, il s'appelle La Ronde ce final, et vous avez entendu la violoniste Sarah Nemtanou avec l'Orchestre Symphonique National d'Ukraine dirigé par Bastien Stil. C'est un premier enregistrement mondial pour cette œuvre. On a entendu une soliste du National, pour pas faire de jaloux, tout à l'heure vous entendrez des solistes du Philharmonique dans la musique de Philippe Hersant.
Est-ce que vous savez, Émilie, quel est le fil conducteur de notre soirée?
Je crois que c'est l'Amérique avec le Mexique.
On y va. Radin del Corazón de Metal, le jardin du cœur de métal, c'est la musique de Javier Alvarez. Et dans moins d'une heure, nous allons vous proposer un carrefour de la création spéciale Mexique. Et lorsque nous avons parlé de ce sujet dans les couloirs de Radio France, le percussionniste Florent Jodelet nous a proposé d'écouter un compositeur qu'il aime particulièrement, Javier Alvarez. Alors je vous avoue que je ne le connaissais pas et il nous a donc donné ce double disque. Alors c'est pas une nouveauté, mais c'est une découverte pour nous. Et je me dis que finalement c'est un petit peu ça la joie secrète de la création, c'est de faire découvrir à des amis, à des auditeurs, des compositeurs vivants qu'ils pourraient aimer. Et c'est le cas ici avec l'œuvre de Javier Alvarez, passionnante, foisonnante, tourbillonnante. Selon le compositeur John Adams, il dit que la musique de Javier Alvarez révèle les influences de la culture populaire qui vont au-delà des frontières de notre propre temps et du lieu. Et c'est vrai que cette musique est un peu à l'image de la littérature sud-américaine, même si je sais que le Mexique n'est pas l'Amérique du Sud. Mais il y a quelque chose, je trouve, de bigarré, une volonté d'œuvre-monde. Et il existe donc ce très beau coffret de 4 disques sur l'œuvre de Javier Alvarez. Vous trouverez toutes les références sur le site d'Empiste Contemporain. On en écoute un autre extrait. Il y a une belle énergie hein, dans cette musique du Mexique.
Et une belle place pour les percussions apparemment.
Absolument.
Florent Joliet, elle devait être ravie.
De jouer cette musique de Javier Alvarez Varitas ici. Alors vous savez que tout à l'heure, l'invité du Carrefour spécial Mexique sera l'accordéoniste Vincent Lermet, qui vient, lui, de publier un très beau disque autour des compositeurs mexicains. Vincent Lermet connaît très bien ce pays où il se rend souvent. Il a fait ici œuvre, on pourrait dire, de musico-ethnologue, car il a travaillé sur la langue, sur les dialectes, sur la langue des Aztèques. Et il évoquera à 22h comment il a pensé le programme de son disque. Mais on va en écouter un extrait. Cantares Mexicanos, qui fait appel à de jeunes compositeurs mexicains, comme Itzam Zapata, 30 ans, qui a été l'élève de Tristan Murail. On écoute donc cette musique à l'accordéon.
Thank you.
Rendez-vous tout à l'heure à 22h pour entendre Vincent Lermet qui évoquera ici le Mexique. Et on vient de l'entendre dans une pièce qui s'appelle « De la adultez y de la adolescencia », c'est dur à dire.
Ah ouais.
De l'âge adulte, on va dire, à l'âge de l'adolescence. C'est une sorte de retour en arrière. Et c'est la musique de Itzam Zapata.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Prokofiev et Marsalis sont réunis dans un nouveau disque.
Sergueï et Winton ?
Absolument pas.
Ah.
Gabriel Branford. Alors Gabriel Prokofiev, vous le connaissez, c'est le...
Eh bien, c'est le petit-fils,
oui,
non, c'est ça, du compositeur.
De Sergueï. Et Branford, saxophoniste, c'est le frère de Winton Marsalis. Ce nouvel opus nous fait donc découvrir deux concertos de Gabriel Prokofiev. C'est un musicien qui a aujourd'hui 44 ans, qui est basé à Londres, qui est également connu comme DJ. D'un côté, son concerto pour percussion, de l'autre, son concerto pour saxophone. Et quelque part, on va repartir sur le débat d'entrée d'émission. Tonalité ou non, avant-garde ou continuité?
Moi, je sens que ça va être continuité encore.
Ah, oui. Écoutez, c'est entre les deux, je trouve. Le concerto pour saxophone a été écrit donc pour Branford Marsalis. Il a dit à Prokofiev qu'il le laissait libre, mais il voulait que l'œuvre soit mélodique. Une mélodie, s'est étonné Gabriel Prokofiev, voilà une demande étrange quand on parle de concerto contemporain, puisque le concept même de mélodie a été éradiqué des compositions d'après-guerre, c'est même devenu un tabou. Mais, conclut-il, je n'ai rien contre la mélodie et j'ai donc pris cette demande comme un défi. Et le deuxième défi, dit-il, c'était de ne pas composer un concerto qui sonne jazz pour un instrument qui lui est tant associé. Soliste et orchestre, vous allez l'entendre, sont en opposition. Il y a un dernier mouvement qui lui était inspiré par les tours modernes de Londres, ces grandes tours et les bruits industriels qu'elles ont entraînés lors de leur construction. Ça lui a inspiré une musique d'orchestre mécanique, motorique, auquel s'oppose le saxophone qui lui parle un tout autre langage.
Thank you. Thank you.
Le final du concerto pour saxophone de Gabriel Prokofiev avec Branford Marsalis, l'orchestre philharmonique de l'Oural, dirigé par Alexei Bogorad. Vous avez vu ces tours qui se construisent.
Mais oui.
Et ce saxophone très poète haut. Au milieu.
Très beau, autre très beau concerto de saxophone, c'est celui de John Adams aussi, que
oui.
Je trouve extrêmement réussi.
Les compositeurs du 20e et 21e siècle s'intéressent effectivement beaucoup à cet instrument. Où nous emmenez-vous, Rodolphe?
Alors vous étiez très terre russe,
oui.
et on va dire de l'Est. Moi, je suis plutôt du côté du Sud et on va aller en Iran maintenant avec un compositeur iranien, Mehdi Kayami, qui a étudié en Iran le piano avec son père et la musique traditionnelle. Avant de s'installer à Milan, où il vit toujours d'ailleurs, je crois, il a travaillé avec Alessandro Solbiati, puis il a ensuite suivi les cours à Rome d'Ivan Fedele. C'est son tout premier disque qui est publié ici par le label Stradivarius. Vous allez entendre, c'est une musique du raffinement et du souvenir. Le musicien se sert avec parcimonie de son héritage culturel pour nous ouvrir par petites touches des partitions résolument ancrées dans la musique savante occidentale. Alors on y trouve un concerto pour Camanche, est-ce que vous savez ce que c'est que le camanche?
Non, j'imagine que c'est un instrument traditionnel.
C'est une vielle à quatre cordes, effectivement. Et puis quelques partitions de musique de chambre, dont Primo Trio Piano, qui est une sorte de condensé de l'histoire du trio pour piano en moins de 6 minutes. Comme si toute l'histoire de ce genre était broyée, à moins que ce soit une sorte d'affiche sur les murs d'une ville. Vous savez, une affiche un peu abîmée, déchirée et passée, dont il ne resterait que quelques fragments.
Thank you.
Voilà la musique pleine de mystères de Mehdi Kayami, ce compositeur iranien que nous découvrons grâce à cet enregistrement du Divertimento Ensemble et l'œuvre s'intitule le Primo Trio Piano.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Ah Rodolphe,
ça faisait longtemps.
Si je vous dis un de mes compositeurs préférés, mais vous aussi non d'ailleurs?
Oui. Allez. C'est Philippe Hersant.
Philippe Hersant, avec un nouveau disque, encore une fois, avec une musique d'une poésie inouïe. Philippe Hersant participe à la grande anthologie du label Hortus autour des musiciens et de la Grande Guerre, collection lancée en 2014 pour commémorer le centenaire de cette guerre. La série n'est toujours pas finie, et tant mieux, parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles partitions, donc comme cette œuvre de Philippe Hersant, Sous la pluie de feu, écrite pour commémorer l'armistice. C'est un double concerto pour violon, violoncelle et orchestre, et écrit en hommage à deux poilus, deux musiciens qui ont connu l'horreur des tranchées, le violoniste et compositeur Lucien Durosoir et le violoncelliste Maurice Maréchal. Il y a associé le nom d'un troisième combattant de la Grande Guerre, l'écrivain André Pézard, spécialiste de l'œuvre de Dante, à qui il a consacré une thèse qui est intitulée « Dante sous la pluie de feu ». Et donc c'est à lui qu'il a emprunté le titre de son concerto. Une œuvre en trois mouvements qui s'enchaînent, d'une vingtaine de minutes, qui passe par tous les états évidemment, l'attente, le chaos, les combats apocalyptiques, le calme angoissant après la bataille. Il y a un superbe passage à la fin de l'œuvre où la voix des deux solistes chante et s'entremêle a cappella. C'est un petit peu comme si c'était des survivants ou des voix fantomatiques. C'est une partition aussi qui porte en elle différentes citations, comme souvent chez Philippe Hersant. C'est notre disque de la semaine. C'est bien mérité. C'est à gagner. Vous nous envoyez un petit mail.
francemusique.fr, l'émission En Piste Contemporain.
Et on écoute le début de cette pluie de feu.
Thank you.
Un large extrait de Sous la pluie de feu de Philippe Hersant avec nos musiciens Maison, Hélène Collerette, Nadine Pierre, l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Pascal Roffet. C'est notre disque de la semaine et sur cet opus il y a également Funérailles de Lucien Durosoir. C'est une mise en miroir entre l'œuvre de Lucien Durosoir et celle de Philippe Hersant.
On va finir par une petite curiosité, Émilie. 64 études pour 6 harpes. Vous imaginez un jour, vous êtes compositrice, vous vous réveillez, vous vous dites, ah tiens, je vais écrire 64 études pour 6 harpes.
Je t'ai dit, c'est un instrument qui peut être d'avoir tellement de visages différents que ça doit être très intéressant.
Il faut être un peu fou quand même pour avoir envie d'écrire ces 64 études pour 6 harpes, l'un des instruments les plus complexes pour un compositeur lorsqu'il n'est pas harpiste. Il faut vraiment bien se renseigner évidemment sur la façon dont on peut écrire pour ce compositeur. Mais ce compositeur, il est américain, c'est James Tinney, il est mort en 2006 et il n'avait pas peur des expérimentations. Il a été un étudiant de Varèse et très vite il sera une des grandes figures de l'avant-garde musicale américaine. Il va travailler avec Max Mathieu dans le développement de nombreux logiciels pour la composition musicale, pour la génération du son. C'est lui qui va être un peu l'interprète et le père même des Steve Reich ou des Philip Glass. C'est un grand compositeur, un peu oublié quand même. Et sa musique est à mi-chemin entre la science et l'expérimentation. Alors voici quelques-unes de ses études. Il y en a 64, il y a 6 harpes. Alors je ne vous donne pas le nom de tous les harpistes et je vous invite à aller voir les références sur notre site francemusique.fr, l'émission En Piste Contemporain. Thank you. extrait des 64 études pour six harpes de James Tinney. Et c'est ainsi que se termine une partie de cette émission, parce qu'il nous reste encore une petite surprise, une petite découverte en fin d'émission.
Un petit portrait ?
Un portrait sonore.
Portrait sonore. Antoine Berland.
Faites un son aigu.
Que pensez-vous de la musique ? Musique, c'est ma vie.
Bonjour.
Oui.
J'ai vu un oiseau debout sous la grange, sous la grange.
Non. Un frère. Oui. Non.
Oui, je dors debout comme tous les.
Parlare in un'altra lingua è qualcosa che posso fare.
Ah, il y avait quelques chiens dans ce portrait sonore.
Et beaucoup, il se passait beaucoup de choses.
Quelques aboiements et quelques silences, c'était le portrait sonore d'Antoine Berland.
Merci à Claire Lagarde, Claude Nior et Marjolaine Portier-Kaltenbach qui nous aident à préparer cette émission.
Votre carrefour de la création se poursuit jusqu'à minuit et demi à 23h30. Vous pourrez écouter l'expérimental de François Bonnet. Et puis dans un instant, la création mondiale du compositeur mexicain Enrico Chapela. Mais tout de suite, direction le Mexique, justement avec le carrefour de la création de Laurent Villarem en compagnie de Vincent Lermet et Anna Lara.
À réécouter sur francemusique.fr.